Genève. Côté. Nature.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Genève Côté Nature, votre rendez-vous vert hebdomadaire sur Radio Cité Genève. Je suis Virginia, une des fondatrices de l'association NARIES qui travaille pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels. Et je suis bien sûr avec ma sœur Émilie pour vous présenter cette émission. Bonsoir à tous. Dans le cadre des activités de NARIES, nous avons plusieurs volets. Tout d'abord, nous menons des suivis scientifiques de diverses populations, surtout dans l'ordre des amphibiens et des reptiles, avec notre espèce phare que vous connaissez bien maintenant, j'ai nommé le crapaud sonneur à ventre jaune. Mais nous travaillons aussi parfois pour des populations d'oiseaux. À côté de cette partie scientifique, nous mettons de plus en plus l'accent sur la sensibilisation du public. Et oui, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les consciences s'ouvrent et nous réalisons peu à peu les dégâts que l'humanité a causés à notre chère planète et à ses habitants. Nous sommes du coup nombreux à modifier nos comportements pour les rendre plus éco-responsables, mais ce travail de sensibilisation prend du temps et de l'énergie. Il ne faut donc pas fustiger les gens qui font « faux » entre guillemets, parce qu'il est possible qu'ils ne soient pas conscients des erreurs qu'ils commettent dans leur vie de tous les jours. Et c'est là que les efforts de sensibilisation doivent continuer et même redoubler pour qu'un maximum de personnes soient touchées et averties afin qu'elles puissent ensuite, gentiment, changer leurs propres habitudes. Vu cette introduction, on pourrait penser qu'on vous présente un côté astuce pour avoir des conseils pour être plus éco-responsable, mais on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On vous laisse d'ailleurs réécouter quelques émissions si vous les avez ratées. On vous rappelle que tous les podcasts de cette émission sont sur notre site internet www.naries.ch dans la rubrique Médias réguliers. Vous pouvez notamment écouter l'émission du 21 septembre 2020 qui vous parlait du vrac pour abolir le plastique dans notre quotidien, ou celle du 16 novembre 2020 qui vous proposait d'utiliser des bibliothèques d'objets pour ne pas acheter toujours quelque chose dont on ne se sert qu'une fois dans l'année, ou encore celle du 14 juin 2021 pour prévoir des vacances plus écologiques. Aujourd'hui, c'est un côté passion que nous vous proposons avec un invité qui fait aussi sa part de sensibilisation en touchant les jeunes qui forment la nouvelle génération et qui vont hériter de la planète que nous avons abîmée et qui vont devoir faire avec. Il est donc capital d'ouvrir leur conscience pour qu'ils se rendent compte de la situation d'urgence dans laquelle nous les avons mis et qu'ils vivent dès leur plus jeune âge avec les habitudes et un mode de pensée qui soit plus en adéquation avec la sauvegarde de notre planète. Mais avant de vous le présenter, il nous faut parler du défi de la semaine pour notre Eco-Challenge 2022.
Cette semaine, on vous propose de remplacer une friandise industrielle par une douceur faite maison. Biscuits, gâteaux, apéros, le choix est vaste. Et c'est tellement meilleur quand ça sort de notre propre four. Allez, on se met tous au fourneau et surtout faites des photos de vos créations en les partageant sur les réseaux sociaux et en taguant le hashtag Eco-Challenge 2022 et le hashtag naries-ch.
Retournons maintenant à notre sujet du jour, un côté passion donc. Et aujourd'hui, nous vous présentons Cyril Obadia, un professeur de biologie au cycle du Foron à Tonnet. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors Cyril, tu es prof de bio, certes, mais tu es un prof plutôt engagé, avec tout un tas d'idées pour amener tes élèves à réfléchir et à travailler sur des sujets d'actualité liés à l'environnement. Alors on va parler de tes divers projets, mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Je m'appelle Cyril Obadia, du coup, je suis enseignant au Foron, je suis prof depuis bientôt 10 ans, et puis je suis quelqu'un avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie de m'engager, donc voilà, mon engagement dans le métier en fait il est axé là-dessus.
Alors parfait, et d'où t'es venue l'envie de devenir prof de bio ? Est-ce que tes parents étaient enseignants ou biologistes ? Est-ce que tu as décidé de faire ce métier pour la nature ou plus pour le côté médecine qu'on enseigne beaucoup durant le cycle avec tous les systèmes du corps et toutes ces choses ? Qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix ?
Alors moi je veux être biologiste depuis assez jeune, je dirais depuis à peu près mes 9 ans, 9-10 ans. Quand j'étais petit, j'habitais dans la montagne, j'habitais sur les hautes toiries. Et puis, mes parents me laissaient assez libre, donc je passais tout mon temps libre, en fait, dans la forêt. Je passais tout mon temps à construire des cabanes, à observer les choses. Et en fait, vers mes 9 ans, j'ai eu la chance de partir à la Martinique. Et j'ai fait la plongée pour la première fois. Et ça a été un blast pour moi, de découvrir toutes ces formes de vie, toutes ces couleurs. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'être sur une autre planète avec des êtres... incroyable, quoi. Enfin, des extraterrestres, enfin, des intraterrestres, des... enfin, bref. Une diversité de vie folle. Et ça m'a vraiment touché, en fait, de voir ça, de me rendre compte que la vie, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit dans notre quotidien. Et du coup, j'ai décidé de devenir biologiste marin. Et donc j'ai, enfin c'était vraiment mon obsession pendant des années. Donc dès que j'ai pu, j'ai fait de la plongée. Et puis après, bah voilà, moi je voulais partir dans une grande université américaine, enfin faire ou australienne. Enfin je me voyais vraiment là-dedans. Puis je suis tombé amoureux de ma femme maintenant. Et puis du coup j'ai décidé de rester à Genève. Donc j'ai fait mes études à Genève, et le seul laboratoire à Genève qui travaillait, qui faisait un petit peu de biologie marine de façon distante, c'était un laboratoire qui travaillait sur les foraminifères. Donc j'ai fait ma formation avec Jan Pavlovski à l'époque, je crois que son laboratoire n'existe plus maintenant.
Et pour nos auditeurs, explique-nous un petit peu ce qu'est un foraminifère.
Oui, pardon, oui. C'est une amibe, donc c'est un organisme unicellulaire qui fabrique des coquilles qu'on appelle des testes, et qui sont très, très répandus et qui ont un rôle écosystémique très important aussi, qu'on utilise beaucoup en paléontologie pour dater des sédiments, et puis aussi dans divers domaines comme la pétrologie. Ça permet de découvrir des sédiments de pétrole. J'ai pas vraiment développé cet aspect-là, mais par contre j'ai beaucoup travaillé sur le... J'ai fait de l'évolution, en fait. J'ai fait de la phylogénie moléculaire.
Wow.
On a beaucoup travaillé sur les liens entre les espèces et puis leur environnement. Et puis voilà.
Et c'est cette formation qui t'a conduit après à finalement opter pour l'enseignement ?
De façon indirecte, oui. Parce que ça m'a permis de découvrir le milieu de la recherche et de me rendre compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait en fin de compte.
Ah.
Donc c'était vraiment une super formation parce que j'ai pu faire des expéditions. Donc ça, j'ai vraiment vivre mon rêve de gosse, de partir sur un bateau pendant 2 mois, de faire des prélèvements,
excellent,
tout ça.
Wow.
C'était vraiment une occasion incroyable. Donc ça, j'ai pu vivre ça et puis me rendre compte que c'était peut-être pas... Enfin, que c'était un aspect du métier que j'adorais, mais que les 3 ans de recherche à taper sur un ordinateur après, ça me plaisait moins.
Je
veux bien croire. Disons que 2 mois, 3 ans, enfin voilà, le rapport n'est pas si intéressant que ça. Et puis, ouais, voilà, j'étais un petit peu déçu en fait par les échanges avec les collègues. Je trouvais que bizarrement, il y avait peu de curiosité parmi mes collègues, peu d'échanges. C'était très difficile de. Voilà, moi, j'imaginais que la communauté scientifique, c'était des gens qui étaient à fond, passionnés, puis qui échangeaient à plein de niveaux. Et puis, en fait, j'ai découvert un monde avec énormément de compétition.
Ouais, tout à fait.
Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment perturbé. En fait, j'avais pas envie d'être dans ce milieu-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pression sur des choses qui étaient totalement absurdes. Et en parallèle, en fait, pour financer mes études, donc là, c'était au niveau du master, je m'étais engagé à faire un doctorat après l'expédition et tout ça. Puis, en fait, en parallèle, pour financer mes études, je faisais des remplacements. Mmh. Et j'avais un lien qui était extrêmement intéressant avec les élèves, qui était très curieux, très motivé. Enfin, j'étais vraiment étonné en bien, parce que ça me faisait plutôt peur à la base, le cycle, les ados. Enfin, voilà, j'avais un peu cette image de population... voilà, qu'on un peu de paria, quoi. Enfin, qu'on voilà, ils font peur dans les bus. c'est stressant. Et puis voilà, j'avais pas forcément non plus, enfin je me sentais pas forcément hyper bien dans ma peau aussi pour être en affichage total avec des ados, mais en fait ça se passait plutôt bien. Et puis j'étais très souvent content de mes cours et moins content de mes échanges au quotidien.
Non.
Donc, puis ouais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je fais énormément d'illustrations à côté.
Ah.
Beaucoup de bandes dessinées, de choses comme ça. Et puis, en fait, il y a eu un moment où j'avais plus envie de développer cet aspect-là que de faire de la recherche. Donc, je dessinais plus que je faisais mon master. Enfin, ouais. C'est ce qui est un problème un peu. Donc je me suis dit qu'en fait, être prof, c'était pas mal, parce que ça me permettait de faire un métier que j'aime bien à mi-temps, et de faire du dessin à côté.
Ah ouais, trop bien.
Donc j'ai fait ça. Voilà.
D'accord. Et alors, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ce créneau du cycle, mais là, on l'a compris un peu. T'as jamais eu envie de viser le collège avec peut-être justement des élèves qui ont fait le choix d'être là et qui sont pas en école obligatoire et qui sont peut-être un peu moins difficiles ?
Bien, Au départ, je n'avais pas spécialement d'envie. Enfin, voilà, ça m'était un peu égal. C'est vrai que c'est une population qui est assez facile, en fait, au collège, parce que, bah, comme tu dis, c'est des gens qui sont motivés, des élèves qui ont envie d'être là. Enfin, plus ou moins, après. globalement. Et puis, en étant... Donc, moi, je suis arrivé, j'ai fait un stage en responsabilité au Forum. Donc, c'est, en gros, on est prof à mi-temps. Et en fait, j'ai découvert une population avec des élèves qui étaient assez défavorisés en fait, dans leur accès à pas mal de choses, que ce soit la culture, enfin une culture artistique ou scientifique. Et en fait, je sais pas, il y a une sorte d'engagement qui s'est créé à ce moment-là. J'ai eu l'impression que bah, là, je pouvais faire un métier qui avait du sens, avoir un rôle qui était important. Et d'une certaine façon, les élèves qui sont déjà au collège, eh bien, ils ont une culture qui leur permet aussi de comprendre beaucoup de choses dans notre société. Tandis qu'au cycle, il y a un combat qui se joue, quoi. Il y a un enjeu. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie de le faire.
Alors, si on parle justement un peu du cursus d'un élève en biologie au cycle, donc nous, on le connaît un petit peu parce qu'on est remplaçante depuis bien longtemps en biologie, entre autres. Mais c'est vrai qu'on ne suit jamais une classe de A à Z toute l'année. Donc, à la base, la biologie, quand on y pense à l'école, c'est plutôt côté médecine, les systèmes du corps humain qui sont passés en revue, les cinq sens. Mais à quel moment est-ce qu'on parle écologie? Parce que ça arrive à un moment dans le cursus. À quel moment tu parles d'écologie avec les enfants et de nature à proprement parler?
Tout le temps.
Après,
c'est ça. Non, mais quand, enfin, ça dépend du prof évidemment. Mais si on parle vraiment en termes de plan d'études, c'est plutôt en 9e qu'on va parler d'écologie, parce qu'on va avoir toute la question de la classification des espèces, donc essayer de donner une image de tous les règnes du vivant. Et puis on va aussi parler des réseaux alimentaires, ce qui est une chouette introduction à l'écologie.
Parfait.
Et puis des modes de reproduction. Et puis voilà, puis après on peut plus ou moins développer. Enfin, c'est ce qu'on appelle un fil rouge dans le plan d'études, toute la question de la biodiversité et de l'écologie. Donc on est censé en parler un peu partout. Et puis voilà.
Et après, c'est au choix du prof de le développer plus ou moins. Vous avez quand même une certaine marge de manœuvre.
Eh bien, en fait, faut savoir que le programme de biologie en Suisse romande, il est énorme. Donc, de base, en fait, on part du principe qu'on n'arrive pas à tout faire. Ouais, j'en parlais avec un collègue hier qui était l'ancien président de groupe et puis qui me disait qu'il pensait qu'il y avait à peu près 50% en trop.
Ouais, wow.
C'est énorme.
Donc, c'est énorme. Alors, si on n'a pas envie de rentrer dans une... Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas de traiter de tout parce que c'est du zapping scolaire, quoi. Ouais. C'est juste horrible.
Tu n'approfondis rien.
Non, voilà. Donc, moi, je préfère passer du temps sur les chapitres qui me semblent importants, qui me semblent avoir un impact soit pour leurs études par la suite, par exemple, la cellule, c'est quelque chose qu'ils vont revoir les 3 années.
Bien sûr.
Soit... pour en faire des éco-citoyens. Et du coup, bah, voilà, je choisis de prendre le temps de traiter des sujets en profondeur et si possible d'avoir des projets autour et puis de les développer. En 10e, donc l'année du milieu du cycle, c'est là qu'on va parler des systèmes du corps humain. Mais on fait souvent le parallèle entre la santé et l'environnement, en fait. Donc c'est vrai que... Bah, par exemple, là, moi, je parle du système respiratoire. Je vais aussi aborder la question des pollens. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pollen? Quelles sont les projections?
Génial.
Donc, il y a énormément de liens à faire à plein de niveaux, quoi. Mm-hmm. Puis, en 11e, on fait beaucoup de génétique. Puis, après, on parle de l'évolution. Et du coup, là aussi, on peut faire des liens. Et puis, le dernier trimestre, c'est un trimestre qu'on a un peu de libre, où on peut faire un projet avec les élèves. Et moi, c'est systématique. Je fais un projet au jardin. Voilà, donc ils sont dans la nature, on fait des choses assez manuelles. Et je leur fais une introduction à la permaculture, en fait.
Voilà. D'accord, alors on reviendra sur ce jardin un tout petit peu après, mais est-ce que tu trouves que les élèves ont un intérêt pour la nature, un intérêt pour l'environnement, et puis pour avoir un accès sur le monde extérieur, pas forcément rester entre les quatre murs de l'école?
C'est une grande question. Ça dépend beaucoup des élèves. Il y a des élèves dont les parents parlent énormément de ces sujets-là, donc ils arrivent, ils sont déjà engagés, ils sont déjà motivés, et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis il y a des élèves qui savent pas qu'un arbre est vivant, ou qui pensent que les nuages le sont, que les pommes de terre poussent sur des arbres. Donc là, il y a plus de travail. Là, il faut réussir à les amener un petit peu à créer un lien avec la nature. Et puis en fait, c'est un peu, bah, j'en parlerai après par rapport à cette histoire de jardin, c'est un peu le challenge, l'enjeu en fait de tout ce projet. C'est comment est-ce qu'on crée un lien chez ces élèves entre la nature et eux.
Parfait, parfait. Alors, on est déjà bien avancé dans l'émission. On va faire maintenant une petite pause musicale avant de parler de vraiment tes engagements au sein du cycle du Forum, le jardin qu'on vient de mentionner, etc. Mais en attendant, donc, notre pause musicale, Cyril, est-ce que tu as pensé à une musique que tu aimerais nous partager ?
Alors là, on est dans un endroit relativement calme et puis paisible. Alors, ça me fait penser à Bill Evans et puis son morceau « Peace, Peace ».
Alors on écoute ça, merci beaucoup.
Radio Cité Genève. Thank you.
C'était Bill Evans avec sa chanson Peace, Peace. Vous êtes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission de l'association Nariès. Aujourd'hui, nous vous présentons un côté passion et nous avons comme invité Cyril Obadia, un professeur de biologie au cycle du Foron. Alors Cyril, dans la première partie de cette émission, on a surtout parlé du métier général de prof de biologie, de l'enseignement classique de la biologie aux élèves de 12 à 15 ans. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que toi, tu as amené dans tes cours.
Alors, sauf erreur, le premier projet que tu as lancé a été de concevoir un potager. On en parlait brièvement avant la coupure de cette émission. Donc, tu l'as conçu, tu l'as géré, entre autres, toi, avec les élèves. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet.
Bon, alors, je n'ai pas fait tout seul, déjà.
D'accord.
non, c'est important parce que plus qu'un projet de potager scolaire, en fait, je dirais que c'est un... J'aime bien dire ça, ça fait assez classe, mais c'est un projet de permaculture scolaire.
D'accord, très bien.
C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une classe, et si on regarde un peu plus loin, un établissement est un écosystème, et que puisque c'est un écosystème, on peut installer des dynamiques positives de soutien de l'individu et du système ensemble.
Excellent.
Et du coup, le jardin, en fait, c'est une extension de ça. C'est un endroit, en fait, où on peut tout d'un coup faire se rencontrer des employés du cycle avec des élèves, mais aussi avec l'extérieur. Donc c'est un terrain, une sorte de laboratoire d'expérimentation pédagogique. Et ce qu'on essaye de faire avec mes collègues, c'est vraiment de trouver en fait des pratiques pour amener les élèves à changer leur façon de se concevoir comme élèves, de concevoir l'école, et puis d'avoir un contexte qui sort de la classe, qui leur permet aussi de se révéler autrement. Okay. Donc voilà, donc l'idée du projet, c'est parti d'un constat assez triste, en fait, que quand on parle de sensibilisation à l'environnement, des enjeux environnementaux, avec les élèves, souvent, en fait, on rentre dans un discours qui fait partie des 15 000 autres discours qu'ils entendent dans leur journée. Et puis, du coup, il y a très, très peu d'impact, quoi. Donc ça, je me suis rendu compte en ayant des discussions avec eux, en me rendant compte que déjà, il y a des bases, en fait, de connaissances de la nature qui sont absentes. Et puis, des sortes d'idées, de préconceptions, d'a priori qui viennent des médias ou des fois, de leurs proches, et qui font qu'ils disent des choses... Ils sont un peu tristes, sur leur monde, et c'est parce qu'ils le connaissent pas, en fait. Donc, le cœur de ce projet, c'est de créer un lien émotionnel à la nature. Comment tisser chez un élève citadin qui va jamais à la campagne, qui va jamais à la forêt, qui sait pas ce que c'est, qui a pas d'intérêt pour ça, comment tisser un lien émotionnel à son environnement?
Et alors, comment tu mets ça en concret? Comment tu le transformes?
Il faut juste le faire aller dans la nature, quoi. Et c'est de plus en plus compliqué de faire sortir les élèves dans la nature. Maintenant, il y a des démarches administratives qui sont très complexes. Enfin, ça demande beaucoup d'efforts de la part des enseignants. Et l'idée, c'est d'amener la nature dans le cycle. Donc, de créer, en fait, un espace totalement dédié à la biodiversité dans le cycle. Et du coup, les premières idées que j'ai eues de ce projet, c'était en 2013. Et puis j'ai laissé maturer ça jusqu'en 2016, où le directeur de l'époque, Benoît Muller, lors de l'entretien annuel qu'on a avec notre directeur, allait me maculer, me forcer à prendre une maîtrise. Et là, tac, j'ai sorti le joker, le carte projet. Et non, mais ça m'a poussé à me lancer parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Et je lui ai dit, j'ai une idée de projet, j'aimerais créer un jardin potager à l'école. J'aimerais que ce soit la permaculture, j'aimerais que ce soit un lieu qui soit totalement dédié à la biodiversité, que ce soit ça l'objectif premier de ce jardin. Et lui, il venait d'avoir une journée d'études entre directeurs au Tessin sur l'alimentation, le développement durable et les projets scolaires. Et du coup, il a dit « Ah, mais il a commencé à faire des petits sauts dans son bureau. C'est génial, trop bien, d'accord, c'est parti, on y va, de quoi t'as besoin ?» Et puis, je lui ai dit que j'avais besoin d'une formation. Je voulais qu'on soit un groupe de profs formés à la permaculture pour pouvoir avoir une sorte de fonctionnement horizontal dans la gestion du projet. Et puis, j'ai pu mettre ça en place. J'ai pu faire venir quelqu'un qui s'appelle Jenny Webster du collectif Permabondance qui nous a fait une initiation à la permaculture. Elle nous a aidé à faire un premier design du jardin qu'on a fait du coup vraiment tous ensemble en fonction de ce qu'on voulait retrouver dans ce jardin et de l'utilisation qu'on voulait en faire. Et puis, donc elle est venue 2 ans comme ça pour nous lancer. Et après, on a fait déjà des premières expériences juste en tant que prof. Puis après, on a fait les premiers projets avec les élèves.
Et alors, c'est vrai que maintenant, on te voit souvent en passant sur le chemin du Foron avec une classe en train de bêcher ou de préparer quelque chose. Comment les élèves accueillent ce genre d'activité? Ils sont contents d'avoir les mains dans la terre ou au contraire, c'est « mon Dieu, je vais me salir et je vais me casser un ongle » ?
Bah, y a plein de réactions différentes, quoi. Souvent, la première réaction quand je leur dis qu'on va faire un projet au jardin, c'est qu'ils sont tout contents de sortir de la classe. Et
ouais,
puis, du coup, ils se réjouissent trop. Puis après, je leur fais désherber une butte pendant 3 heures. et ça change. Mais moi, ce que j'aime bien voir, et ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, c'est d'avoir des élèves qui ne voulaient pas mettre les pieds sur la pelouse parce que ça allait salir leurs chaussures.
Ouais.
Et puis qui finissent l'année en tenant des vers de terre dans les mains.
Ah, yes.
Et là, quand ça se passe, moi, c'est un peu mon cadeau, c'est un peu ma récompense de tous ces efforts. Quoi.
Donc on espère que ce projet va perdurer. Effectivement, la permaculture, c'est aussi quelque chose qu'on affectionne et qu'on essaye de promouvoir. Donc on est ravis de voir évoluer ce jardin à chaque fois qu'on passe au Foron. Et un autre projet auquel tu as participé récemment, c'était un rallye du développement durable que tu as mis en place avec des collègues également. Donc Nariès avait participé aussi. On avait une activité ce jour-là sur l'agriculture et l'alimentation. Parce qu'il fallait en fait du monde, parce que vous avez fait ce rallye pour les 650 élèves du cycle. Donc c'était pas rien. Parle-nous un petit peu de ça, comment l'idée est arrivée, comment est-ce que vous avez trouvé quoi faire à tous ces élèves, et comment vous avez géré autant d'élèves en une seule journée. Enfin, raconte-nous un peu tout ça.
Alors c'était un cauchemar.
Ça part bien.
Non, mais c'était très compliqué parce qu'en fait, on a commencé à organiser ce rallye et puis il y a eu le Covid.
Ah.
Donc, c'était une galère sans nom. Mais l'idée, c'était... En fait, c'est venu avec les premiers rapports du GIEC. Donc, je crois que c'était en 2018-2019, comme ça, où il y avait ce climat un peu bizarre et en même temps assez excitant au niveau mondial. Il y avait Greta qui commençait à faire des siennes. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. Et puis, moi, je me questionnais beaucoup sur ce qu'on faisait en tant que prof, en fait. Je trouve qu'on parle pas assez de développement durable, qu'on parle pas assez des enjeux de la biodiversité, enfin, de la protection de la nature et tout ça. Ou alors sinon, on en parle trop, mais il n'y a rien de concret. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un problème, en fait. On a des jeunes qui vont devoir gérer un monde qui sera très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de difficultés qui pointent le bout de leur nez. On voit déjà, on commence déjà à souffrir de ce monde qui change, quoi. Et je trouve que ça devrait être la mission principale de l'école, de préparer ces jeunes à ça.
Tout à fait.
Bizarrement, enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois dans mon quotidien, je trouve qu'il y a peu de... Ouais, c'est pas assez important, c'est pas assez présent, quoi. Donc... Voilà, j'avais envie de créer un événement où on met toute l'école à contribution pour donner l'importance à ces questions-là. Et puis, en fait, je voulais que ce rallye, y mette les élèves dans une position qui soit positive. C'est-à-dire que, on va parler des problèmes, puis surtout, on va chercher des solutions. Et puis, les mettre dans cette posture de qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux. Et j'avais envie que ces solutions, ils puissent les voir appliquées. Donc l'enjeu du rallye, c'était de les mettre dans une position où c'est eux qui vont réfléchir à comment changer le cycle pour le rendre plus durable, plus écologique, quoi.
C'est génial.
Donc je suis allé voir ma direction avec cette idée là et puis il y a un doyen qui a pris en charge le projet, puis on a demandé de l'aide. Donc j'ai deux autres collègues biologistes qui sont venus et on a formé une sorte de comité et on a commencé à plancher sur la création de ce rallye. Qui devait se tenir d'abord en 2020 et puis qui a été annulé une première fois, puis une deuxième fois, puis finalement on a réussi à le faire en 2022 et on a créé 75 ateliers.
Wow.
Donc à la base on voulait que toutes les classes soient mélangées pour que chaque classe soit divisée en 4 groupes et que chacun de ces groupes aille voir, découvrir une thématique. Donc on n'a pas fonctionné avec les thématiques pile des objectifs. On a pris des thématiques plus générales comme l'énergie, l'eau, l'agriculture et l'alimentation, et puis la consommation et les déchets. ce qui nous permettait en fait de parler d'économie circulaire, de tout un tas d'aspects du développement durable. Et puis du coup, on voulait que chaque classe soit divisée en quatre et qu'il y ait des élèves qui aillent dans toutes les thématiques et puis qu'à la fin, ils se retrouvent et que chacun présente ce qu'il a vu dans sa thématique.
Ah, super.
Et qu'ensemble, ils fassent une charte et puis qu'on fasse à la fin un concours de chartes pour choisir une charte du développement durable qu'on appliquera l'année prochaine au cycle. Et avec le Covid, on n'a plus eu le droit de mélanger les classes. Donc, on a réussi à faire des demi-groupes pour les classes nombreuses. Donc voilà, ça a un petit peu changé. Je trouve ça très dommage. Mais on a quand même eu des élèves qui sont bien impliqués. On a eu beaucoup de chartes. On a fait un comité avec des élèves et des profs où on a sélectionné les meilleures propositions de chaque charte. Pour dire qu'il n'y ait pas une classe qui gagne, en fait. C'est un travail collectif, donc il va y avoir tout un tas de... On a une immense charte, en fait, avec plein de propositions géniales des élèves.
Tu peux nous en donner quelques exemples ?
De faire plus souvent des rallyes du développement durable, déjà.
Ça, c'est bien.
Mais il y a eu beaucoup de réflexions sur la cafétéria, par exemple, sur comment consommer, sur l'utilisation de l'électricité en classe...
Et du coup, est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que vous allez réitérer ce rallye les prochaines années ?
Alors, si tu m'avais posé la question à la fin du rallye, j'aurais dit non. Plus jamais ça. Mais l'idée, ce serait peut-être éventuellement d'organiser ça tous les 3 ans pour que tous les élèves aient une fois dans leur scolarité une participation au rallye.
Ah, génial !
Et puis l'année prochaine, on va créer un cours fac dont le but sera d'appliquer cette charte. Donc on va rencontrer le directeur, on va essayer de faire une rencontre avec des gens du département des bâtiments, enfin on va essayer de les mettre un peu dans cette posture où ils vont voir les gens, les acteurs, comprendre la complexité déjà de ce système-là. Okay. Et puis ça, j'espère que ce sera assez formateur pour eux, pour que par la suite, en tant que citoyens, ils se sentent le pouvoir en fait de changer les choses.
C'est super, mais en tout cas ça fait plaisir de voir un prof engagé comme ça, parce que c'est vrai que des fois on trouve que la nature passe un petit peu à la trappe dans la scolarité. Donc voilà, d'ores et déjà merci pour ton travail, Cyril. On arrive maintenant gentiment à la fin de cette émission, donc merci encore Cyril d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Alors, on vous rappelle que le défi de la semaine de notre éco-challenge est remplacer une friandise par une douceur faite maison. Mettez-vous derrière vos fourneaux et envoyez-nous des photos. On se réjouit de les voir passer sur les réseaux sociaux.
Les prochains rendez-vous de Nariès ne sont pas tout de suite, mais allez jeter un œil à notre site internet www.nariès.ch. Si ça vous intéresse, vous pourrez d'ores et déjà vous inscrire pour la sortie nature du mois de juin, durant laquelle nous irons chercher le castor, pour un cours de cosmétiques vacances solides. Et si vous avez du temps le vendredi 17 juin, nous vous donnons rendez-vous au marché des 4 saisons de Puplinge dès 16h, où Nariès aura un stand.
Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un côté vadrouille. Alors en attendant, on vous souhaite à tous, ainsi qu'à toi Cyril, une excellente semaine. Merci encore de ta participation.
Merci à vous.
Et au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Genève. Côté. Nature.